machine à écrire. Donc un ruban est une séquence infinie de cellules qui modélise la mémoire, donc ici une mémoire infinie, dans un potentiellement infini d'ordinateur. Ce ruban possède une tête de lecture qui permet deux actions très simples, de lire et écrire un symbole dans la cellule où elle est positionnée. Et elle peut faire en plus deux autres actions, c'est de se déplacer d'une cellule vers la droite, d'une cellule vers la gauche. Donc quatre actions de base très simples. Et les symboles qui peuvent être écrits dans les cellules du ruban, de la mémoire, sont en nombre fini. Donc on a un nombre fini de symboles, des 0 ou des 1, ou les symboles de notre alphabet. Et également, cette machine peut être dans un certain nombre d'états, il y a un nombre fini d'états. Vous voyez, rien de plus simple. Et dans ce modèle-là, un algorithme est décrit sous la forme de ce qu'on appelle une fonction de transition qui décrit de façon finie et très simple les actions que peut effectuer la machine en fonction de l'état et du symbole sur la tête de l'écran. Donc cette fonction de transition, c'est une fonction qui associe à chaque couple, et il y a un nombre fini de couples, d'actions, de symboles et d'états, qui associe un triplet qui définit le nouvel état, l'action à effectuer et le nouveau symbole à écrire. L'exécution d'un algorithme, donc ce qu'on appelle dans notre jargon un calcul, le calcul fait par un ordinateur, eh bien, c'est tout simplement l'application de cette fonction de transition, de cet algorithme, sur une entrée qui va être décrite par le contenu d'un nombre fini de cellules consécutives du ruban. Voilà. Donc voilà, ce modèle, vous voyez, est très simple. Et pourtant, il est considéré comme universel au sens suivant. Enfin, ça a été cette universalité, ce modèle a été posé comme une thèse à la fois par Turing et par Church, qui était aussi un des cofondateurs de l'informatique, ont posé, ça ne peut pas se démontrer mathématiquement, que ce modèle abstrait très simple capture en fait tout ce que l'on peut calculer avec une machine. En fait, cette thèse, qui a été énoncée dès le départ, elle se trouve à être vérifiée dans la pratique encore aujourd'hui et encore pour longtemps. De fait, tous les ordinateurs, les plus puissants soient-ils, et tous les langages de programmation actuels, quels qu'ils soient, sont ce qu'on appelle Turing complet, c'est-à-dire qu'on peut capturer tout ce qu'ils peuvent exprimer, le fonctionnement de tous les ordinateurs actuels, dans le modèle de la machine de Turing. Donc, ils sont donc un point important. Au passage, c'est que donc, tous les langages de programmation que vous pouvez connaître ou avoir entendu parler sont tous équivalents du point de vue de l'expressivité. Alors, quand on vous dit ah non, c'est mieux, on peut faire ça en tel langage et pas en tel langage, c'est faux. On peut le faire plus ou moins facilement, mais donc, ils sont tous équivalents du point de vue de l'expressivité et c'est un point important à signaler. Alors, ce modèle, la machine de Turing, en fait, a fondé ce qu'on appelle en informatique la théorie de la complexité. Et tout un travail important des chercheurs en informatique, c'est de classer les problèmes du point de vue des problèmes décidables. Donc, évidemment, déjà de distinguer les problèmes qui sont indécidables et les problèmes décidables. Et parmi les problèmes décidables, c'est-à-dire pour lesquels il existe des algorithmes pour les résoudre, d'essayer de les classer dans ce qu'on appelle des classes de complexité qui vont permettre de qualifier la complexité en temps ou en mémoire nécessaire pour résoudre le problème. Alors, ce qu'on appelle le temps, la complexité en temps, ce n'est pas évidemment de chronométrer en millisecondes ou en secondes le temps d'exécution, c'est dans le cadre du modèle de la machine Turing, c'est le nombre d'étapes de calcul nécessaires pour résoudre le problème en fonction, et ce nombre d'étapes de calcul n'est pas constant, évidemment, il dépend de la taille de l'entrée qu'on fournit à l'algorithme. Et de même, pour la complexité, ce qu'on appelle la complexité en place ou la complexité en mémoire, c'est effectivement pas non plus en kilo-octets ou des choses comme ça, mais c'est toujours dans le modèle de la machine de Turing, en termes de l'ordre de grandeur, du nombre de cellules visitées par la tête de lecture, tout ça évidemment en fonction de l'entrée. Et donc la complexité en temps ou la complexité en mémoire sont des fonctions dépendantes de la taille de l'entrée qu'on fournit à la tête. Alors, j'ai choisi en fait de donner quelques exemples pour essayer de vous montrer un petit peu le type de problème de recherche qu'on se pose en informatique, Et je vais prendre ici un exemple inspiré, disons, du domaine des réseaux de communication au sens large, et de leur modélisation sous forme de graphes. Alors, ça me permet au passage de montrer aussi le type de modèle sur lequel il y a une structure de données, de modèle qui est très important en informatique, et cette notion de graphe. Un graphe, c'est très simple, c'est un ensemble de sommets et d'arcs. Et donc, vous imaginez bien comment on peut modéliser justement un réseau de communication ou un réseau de machines. Chaque nœud représente une machine et les arcs représentent les connexions entre machines. Et puis là-dessus, on va, dans la modélisation complète, on va associer des contraintes et des coûts. Les contraintes, eh bien, on va les poser ou sur les sommets ou sur les arcs, selon le problème qu'on veut étudier. Et ces contraintes vont mobiliser l'aptitude des sommets ou des arcs à réaliser telle ou telle tâche. Et les coûts, eh bien, ça va être justement les mesures, alors en temps, en nombre de messages, en d'autres paramètres, de l'exécution de telle ou telle tâche. Alors, sur ce type de problème, voilà ce qu'on peut étudier en termes de l'analyse de la complexité. Par exemple, vous pouvez être intéressé par ce qu'on appelle le poids de diffusion dans un graphe, essayer d'estimer le temps de diffusion pour un graphe G et un sommet U de ce graphe. Étant défini comme étant le temps entre guillemets que j'ai précisé précédemment, c'est pas le temps en secondes, mais c'est un nombre d'étapes de calcul, donc nécessaire pour qu'une donnée soit transmise du sommet U à tous les sommets du graphe G. D'accord ? Donc on comprend l'intérêt pratique d'étudier ce problème-là. Et donc, voilà par exemple le type, un résultat correspondant à ce problème, et le type de résultat qu'on obtient en informatique, qui sont donc des théorèmes. Et par exemple, ce théorème dit que décider si le temps de diffusion est inférieur ou égal à une certaine constante K est un problème NP complet. Alors NP complet, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je trouve important de parler de cette terminologie, non pas de la terminologie elle-même, mais parce que NP complet fait référence à une classe de complexité, la classe de complexité NP, et qui est extrêmement étudiée en informatique, et qui se distingue de la classe dite des problèmes P pour polynômiaux. Alors, la classe des problèmes P, c'est l'ensemble des problèmes que l'on sait résoudre en temps polynomial, et disons qu'on considère que cette classe de problèmes correspond à un problème que l'on sait résoudre de façon efficace par l'informatique. Parce qu'on sait les résoudre en temps polynomial, et que donc même si on leur fournit des entrées de taille importante, le temps d'exécution des cerveaux de résoudre reste raisonnable. Par opposition, la classe NP, qui est la classe juste au-dessus des problèmes P, alors NP ça ne veut pas dire non polynomial, ça veut dire non déterministe polynomial, enfin, peu importe, ça regroupe les problèmes pour lesquels on ne sait pas résoudre en temps polynomial, mais pour lesquels on sait vérifier en temps polynomial si une solution potentielle est une solution au problème. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux classes, outre qu'elles sont effectivement basiques dans notre discipline, c'est que ces classes ont été définies au début même de l'informatique, donc il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, même un peu plus, et il y a une conjecture qui est toujours ouverte, qui est qu'on ne sait pas, on suppose, c'est une conjecture, que ces deux classes sont distinctes, mais ça n'a pas été encore prouvé. Et d'ailleurs, donc, cette conjecture est mise à prix, donc je ne sais plus quel organisme, enfin en tout cas mise à prix, je crois que c'est d'un million de dollars, pour le premier qui pourra prouver que P est différent de P, ou en fait que P est égal à P, ce qui est peu probable. Vous voyez encore des problèmes, je dirais, fondamentaux, théoriques, qui sont ouverts. Alors, donc, ce que j'ai essayé de vous montrer ici, c'est qu'on est beaucoup intéressé en informatique à essayer d'étudier la complexité intrinsèque de problèmes. Alors, quand on a un problème qui est important à résoudre en informatique, et que ce problème, on prouve qu'il est dans une classe de complexité qui fait que, ça va être difficile de le résoudre de façon efficace, comment fait-on pour contourner la complexité intrinsèque d'un problème ? Alors, il y a différentes façons de faire. Eh bien, on peut procéder par restreindre les instances du problème qui vont nous intéresser, et pour cela, peut-être, toutes ces instances-là, on saura le faire de façon efficace. On peut aussi, le faire par des algorithmes qu'on appelle des algorithmes d'approximation. Donc, un algorithme d'approximation, c'est quoi ? On va le donner. Ben, c'est un algorithme qui est de complexité polynomiale, donc important, on essaie de faire sur de façon efficace. Alors évidemment, si le problème est dans une classe qui n'est pas P, ça veut dire que cet algorithme ne va pas permettre de résoudre exactement le problème. On veut que ce complexe polynomial, on sait qu'il ne peut pas résoudre de façon exacte le problème, mais par contre, ce qu'on va vouloir assurer, c'est que pour tout l'instant du problème, il va pouvoir trouver une solution qui est approchée par rapport à la solution exacte du problème, par rapport à un certain rapport d'approximation R. Alors si je reviens à mon petit exemple de temps de diffusion dans un réseau, voilà un théorème, puisqu'on a montré que le problème qui nous intéressait de temps de diffusion était NP complet, donc n'était pas faisable de façon pratique pour des gros graphes. Donc voilà un théorème qui dit qu'il existe un algorithme d'approximation pour le calcul de temps de diffusion avec un rapport d'approximation, avec un rapport d'approximation qui soit de l'ordre de grandeur, de l'ordre logarithmique par rapport à N, où N est la taille du graphe, la taille du graphe étant le nombre de sommets du graphe. Alors, donc voilà, j'ai essayé de vous montrer qu'une bonne partie des travaux de recherche en informatique étaient de nature fondamentale. Je voudrais aussi insister sur le fait que beaucoup de travaux en informatique, de recherche, sont par nature pluridisciplinaires. Et pour illustrer cet aspect pluridisciplinaire, eh bien, je mentionne bien évidemment donc une tendance récente de la recherche en informatique, qu'on appelle la bioinformatique, et comme son nom l'indique, évidemment, est pluridisciplinaire avec la biologie, dont le but de la bioinformatique, c'est d'analyser et d'interpréter au moyen de méthodes informatiques des données génomiques et leurs corrélations. C'est surtout leur corrélation qui m'intéresse. Et donc, au laboratoire de recherche informatique où je travaille, il y a une équipe récente qui a été créée, une équipe de bioinformatique, qui travaille dans une collaboration étroite avec les biologistes d'Orsay et d'ailleurs, et qui développe une approche multicritère, c'est-à-dire qui combine des techniques informatiques variées, développées dans des équipes assez différentes, et qui vont maintenant travaillent ensemble, donc qui utilisent des techniques combinatoires, mais des techniques également ce qu'on appelle, issues d'intelligence artificielle, qu'on appelle la fouille de données, ou l'extraction de connaissances à partir de données, et également des techniques de visualisation des données, parce que ces problèmes de bioinformatique sont très difficiles, les enjeux sont énormes, et il est clair que ce n'est pas une approche unique qui va résoudre les problèmes. Alors, donc, je vais essayer maintenant d'apporter certains éléments de réponse à la question que je posais au titre de mon exposé. Alors, c'est difficile de répondre en disant voilà comment émergent les problèmes de recherche en informatique. Parce que ça dépend, parce que c'est varié. Donc, la recherche, j'ai insisté sur la question fondamentale, évidemment, je ne cache pas l'aspect technologique aussi de cette science informatique. Et je ne cache pas que la recherche en informatique est aussi parfois guidée par des avancées technologiques. Et je vais prendre deux exemples que vous connaissez tous, qui sont Internet et le web. Alors, Internet, il faut savoir que c'est au départ, l'ancêtre d'Internet s'appelle ARPANET, et ARPANET était le résultat d'une recherche tout à fait ciblée et tout à fait militaire. C'est-à-dire que l'armée américaine avait mandaté les chercheurs finançait pour essayer de trouver un réseau de communication qui soit capable de résister à une attaque nucléaire. Donc, besoin vraiment, comme vous voyez, très concret et très militaire. Et à partir de là, eh bien, donc, ARPANET est né, et surtout, pour pouvoir répondre à ce besoin bien concret, eh bien, est née l'émergence du principe d'une architecture décentralisée d'un réseau de réseaux. Et c'est ce principe très simple qui a donné naissance à Internet et donc à ce réseau des réseaux que vous utilisez tous. Alors le web est né également d'une avancée technologique et qui était au départ un simple besoin d'un outil de partage de documentation technique pour les physiciens du CERN. Donc les informaticiens du CERN avaient cette demande des physiciens qu'ils avaient besoin de partager des documentations techniques et comment faire ça de façon à l'aide de l'informatique au niveau du CERN. Et Tim Berners-Lee, qui était physicien au CERN à cette époque, eh bien, a inventé, avec certains de ses collègues, le langage HTML qui est fondée sur un paradigme très simple de la navigation de entre documents par des liens hypertextes, et qui est la base du web. Et maintenant, le web est devenu, enfin, avec le support d'Internet, est devenu un formidable outil de partage de la connaissance basé sur ce principe très simple. Alors, cette, l'émergence d'Internet et du web, en fait, a ouvert de nouvelles voies de recherche. Ces avancées technologiques, en fait, ont ouvert de nouvelles voies de recherche. Pourquoi ? Et donc, et la nécessité d'inventer de nouveaux concepts, de nouvelles problématiques. Tout simplement parce que eh bien, se pose le problème de passage à l'échelle de l'exploitation de l'immense potentiel de calculus local des données qui sont distribuées sur le web. Et ça, ça fait que ce qu'on savait faire à un niveau local, je dirais, eh bien maintenant il faut vraiment voir les choses différemment, il faut inventer de nouveaux concepts pour pouvoir rendre possible ce passage à l'échelle. Ce passage à l'échelle qui a été rendu possible par ces avancées technologiques qui ont été l'Internet et le web. Alors, par exemple, je vais faire deux zooms sur deux thématiques de recherche très nouvelles et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent actuellement. La première, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Le web sémantique, en fait, on pourrait l'appeler, c'est un peu un slogan pour qualifier le web de demain ou le web de la seconde génération. Le web actuellement, vous savez tous que c'est un immense gisement de données, de services d'ailleurs, qui sont distribués et qui sont décrits par du texte. Et vous utilisez tous, vous accédez tous à ces ressources du web par des moteurs de recherche et vous exprimez vos besoins, vos demandes par ce qu'on appelle des requêtes mots-clés. Donc les moteurs de recherche que vous utilisez, je ne sais pas lesquels vous utilisez, mais enfin il y a des tas, et fonctionnent tous sur le même principe, qui est un principe très simple également. En fait, ces moteurs de recherche, tout simplement, ont centralisé, bon, et essayent d'explorer de façon la plus systématique possible le web, par ce qu'on appelle des crawlers, des petits programmes qui systématiquement vont explorer différentes pages, rapatrient leurs contenus, qui sont du texte, hein, et donc centralisent tout ça, font une analyse statistiques extrêmement sommaires des textes, des mots du texte, et stockent de gros index de mots. Et ça, c'est uniquement ça qu'il y a derrière les moteurs de recherche. Alors, le web sémantique vise en fait à enrichir la description des ressources du web par ce qu'on appelle des métadonnées, ayant une sémantique formelle qui pourrait être exploitable par des machines de façon plus efficace, enfin plus pertinente que des mots de l'anglais, on va dire, même si la grande majorité des textes qui sont sur le web sont en anglais. Et donc, à partir de là, ça permettra de construire des moteurs de requête beaucoup plus puissants et beaucoup plus précis que les moteurs de recherche actuels, qui s'y sont très utiles. Vous devez savoir, vous devez avoir fait l'expérience, que parfois, les réponses qui nous sont ramenées correspondent pas forcément, pas du tout, à ce qu'on avait dans la tête, tout simplement parce que, et bien évidemment, il y a l'ambiguïté des mots de langage naturel, puisque c'est basé là-dessus. Notre problématique là, qui est actuellement aussi, qui mobilise beaucoup de chercheurs au niveau mondial, au niveau international, c'est ce qu'on appelle le calcul distribué à grande échelle, le global computing ou le grid computing, enfin bon. Ce qui est étudié, c'est comment, vous voyez dans le titre même, c'est le passage à l'échelle de l'exploitation des ressources de calcul qui sont en fait disponibles grâce à Internet, puisque finalement, grâce à Internet, il y a des centaines de milliers, des millions, on va dire, de PC, d'ordinateurs qui sont connectés sur Internet entre eux et qui peuvent donc participer à un effort collectif de recherche, à un effort de calcul. Et donc finalement, Internet, et plutôt les machines qui sont connectées par Internet, peuvent être considérées comme en fait un ordinateur parallèle gigantesque, avec des ressources énormes, bon, mais qu'il faut savoir gérer. Et donc il y a des tas de projets qui ont vu le jour, comme peut-être certains en ont entendu parler, comme SETI-ATOM, FOLDI-ATOM, qui sont donc des projets de recherche d'utilisation de, des ordinateurs personnels qui sont connectés sur Internet. Et en fait, quand vous participez, vous pouvez vous-même, en tant que particulier, participer à ce genre de projet et vous engagez à laisser votre ordinateur, lorsque vous ne l'utilisez pas, utilisé par d'autres machines pour faire des calculs. Alors, je cite également comme projet de ce type ExtremeWeb. ExtremeWeb, c'est un projet qui est développé ici, donc à Orsay, dans une équipe du LSI en collaboration avec l'IRIA, et également en collaboration avec des physiciens. Et donc, c'est une plateforme de calcul distribué à grande échelle pluridisciplinaire, et dont l'objectif est de fournir aux chercheurs un support pour l'expérimentation et pour donc faire des calculs distribués à grande échelle. Alors, je voudrais juste signaler que ce n'est pas juste l'utilisation comme ça, on va utiliser des machines et puis c'est juste une application et une avancée technologique. Tout ça, ça pose des problèmes nouveaux qu'il faut résoudre et des problèmes, en fait, ça renouvelle les problématiques de recherche en parallélisme puisqu'il n'y a pas de contrôle, on ne va pas dire tiens, toi, maintenant tu fais ça, toi tu fais ça. Il peut y avoir des problèmes, c'est extrêmement dynamique, les machines sont extrêmement volatiles, la disponibilité n'est pas garantie. Enfin, il y a des tas de la sécurité, évidemment, est un problème important. Il y a des tas de nouvelles problématiques qui se renouvellent dans le cadre de ce type de problématique. Alors, je voudrais également dire que la recherche en informatique peut être aussi guidée par des conjectures scientifiques. Et pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de l'algorithmique quantique. L'algorithmique quantique, c'est fondé sur un nouveau modèle de calcul issu de la mécanique quantique, ou si vous voulez, la mécanique quantique remplacerait l'électronique pour construire les ordinateurs de demain, d'après-demain. Alors, du point de vue de l'informatique, les gens ont déjà, il n'y a pas d'ordinateur quantique qui existe encore, mais de même qu'au début de l'informatique, il y a eu des modèles de calcul et une théorie de la complexité algorithmique qui a été développée avant même que les ordinateurs fondés sur l'électronique existent, bien là la même situation se passe. Il y a des travaux donc théoriques qui ont lieu, et là ce qui est mis en place, c'est une nouvelle théorie de la complexité, parce que ce qu'on a montré, c'est que, en fait, sur ce nouveau paradigme, avec ce nouveau modèle de calcul, eh bien, certains problèmes, comme en particulier les problèmes de factorisation de nombres, peuvent être résolus exponentiellement plus rapidement que dans le modèle de calcul à machine de Turing. Alors, ces problèmes pour lesquels on a montré que ce nouveau modèle quantique, la mécanique quantique, pourrait permettre donc, d'améliorer de façon vraiment significative, et plus que significative, la complexité, sont assez peu nombreux pour l'instant, mais il se trouve que ce sont des problèmes dont la complexité exponentielle actuelle fonde la cryptographie. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que, si vous voulez, ce nouveau modèle de calcul, il pourrait faire complètement tomber les méthodes de cryptographie actuelles. Alors évidemment, ce domaine de recherche est un pari sur l'avenir, parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'un jour on puisse construire un ordinateur quantique. Il y a plein de problèmes physiques liés à la mécanique quantique qui se posent là-dessus. Alors il y a déjà pas de l'ordinateur quantique, mais des portes, enfin des petits composants qui montrent que peut-être ce sera possible, mais c'est loin d'être sûr. Mais si c'est possible, évidemment, ça va complètement révolutionner l'informatique. Et même si ce n'est pas possible, ça renouvelle. Ça permet aussi de renouveler la théorie de complexité et ça peut-être amener aussi une nouvelle façon de résoudre les problèmes informatiques, même si les ordinateurs quantiques ne le voient pas. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, donc j'ai vraiment juste donné des exemples, je n'ai pas fait un panorama exhaustif. Je voudrais juste terminer sur ce transparent qui fait un peu fouillis, mais qui vous montre en fait, dont l'objectif est de vous montrer qu'en fait, tout ce que je vous ai raconté ne se passe pas de façon isolée dans tel ou tel laboratoire, ou dans telle ou telle équipe, ou dans tel ou tel bureau d'un chercheur isolé, avec son tableau, son ordinateur, mais tout ça se passe dans le cadre de collaboration entre organismes, entre laboratoires, entre disciplines. Et donc là, c'est un petit schéma qui vous montre un petit peu le bouillonnement actuel qui se passe dans la région Île-de-France Sud autour de l'informatique et plus largement des sciences et technologies de l'information. Donc, puisqu'il y a eu des rapprochements, comme par exemple la création, il y a 2 ans maintenant, du pôle commun de recherche en informatique du plateau de Saclay, qui regroupe des laboratoires de recherche en informatique d'Orsay, de l'école polytechnique et de l'INRIA, et plus largement la mise en place actuellement, là qui se passe, de ce qu'on appelle DigiFeolabs, qui est un pôle de compétences en sciences et technologies d'information qui se met en place et qui à terme vise de l'ordre de 1800 chercheurs en sciences et technologies d'information sur le plateau de Saclay et qui est une force de recherche qui est au cœur de la mise en place également d'un pôle de compétitivité dans lequel interviennent de nombreux industriels de la région de France Sud. Je vous remercie.